Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
La Constelación.
Bonjour, bonsoir et bienvenue à La Conspiration des Planches, le magazine critique des arts de la scène de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles. Bonsoir si vous nous écoutez évidemment le mercredi à 19h ou le jeudi en rediffusion à 13h30. Alors là, on vous dit bonjour et bonjour, bonsoir Catherine.
Bonjour Nico.
Merci d'être avec nous pour nous parler de pas mal de spectacles encore et de belles créations cette semaine. Enfin, belles, on verra hein, évidemment. On ira faire un tour du côté de l'atelier 210 qui accueille un nouveau texte de Juan Mayorga, Himmelfeck, c'est ça, et c'est Yasmina Douyeb qui s'est emparée de ce texte pour cette création. On ira du côté du Théâtre des Martyrs où Elisabeth est allée voir La Cerisée de Tchekhov, elle nous en a rapporté quelques impressions. Nous irons également suivre les traces du Petit Poussé et aussi un lombric, un drôle de lombric qui s'est installé du côté du Théâtre du public et on parlera éventuellement d'une autre reprise, L'homme du câble du côté des riches clercs. Et on va commencer tout de suite cette émission avec le spectacle que Catherine est allée voir pour nous du côté de, du public, hein, l'éthique du lombric. C'est quoi ?
Oui, titre assez énigmatique pour une pièce de Stefano Beni qui a tapé dans l'œil de Bernard Cogno et Marie-Paul Kums. Donc c'est ce couple qu'on voit depuis quelques années, couple à la vie, à la ville, mais aussi sur la scène. Ils avaient marqué les esprits avec Tout au bord la saison dernière, qui était plutôt autobiographique, qui racontait leur quotidien et leur vie de parents quand les enfants quittent le nid. Et cette fois-ci, ils reviennent avec une pièce très différente, donc de cet auteur italien, Stefano Beni. Alors c'est une succession de petits sketchs, c'est vraiment la pièce pour aller se remonter le moral, pour se réconcilier avec le monde, pour se sentir bien. Voilà, c'est tout douillet, c'est drôle par moments, plus grave à d'autres. C'est un petit goût italien du fait des origines de Stefano Beni. Alors pour vous donner une idée, le premier sketch est assez hilarant. C'est l'histoire d'un village célèbre pour sa crèche vivante. Sauf que celle qui jouait le rôle de la Vierge Marie est tombée enceinte et donc ne peut plus assumer ce rôle. C'est quand même embêtant pour la Vierge Immaculée d'apparaître avec un ventre tout rond. Donc tout le village se met à la recherche de la remplaçante et on fait le tour comme ça des personnages, des figurants de cette crèche vivante avec un ange pizzaiolo, avec un enfant Jésus joué par un nain, avec un aubergiste gay qui fait de l'œil à l'ange. Voilà, c'est assez coloré, c'est assez pittoresque.
C'est loufoque aussi, non ?
C'est vraiment très drôle, oui, c'est loufoque, parfois même surréaliste. Il y a par exemple un autre sketch où au bout de 10 minutes, on réalise qu'en fait Marie-Paul Kums est en train de jouer une poule fermière qui va bientôt être sacrifiée pour nourrir la famille du paysan qui est très attachée à sa poule, qui s'appelle Carmela, mais qui sait, elle, la poule, qu'elle va bientôt passer à la casserole et qui se lance comme ça dans une méditation philosophique sur son destin de poule fermière. Mais ce qui est très drôle, c'est que c'est écrit de telle manière... Est-ce qu'on ne comprenne pas tout de suite qu'elle est une poule? Et tout d'un coup, on se dit, mais pourquoi elle bouge comme ça son cou et qu'elle marche bizarrement? Et puis finalement, tout fait sens. Voilà, donc
Est-ce qu'il y a un fil rouge entre les sketchs où on essaie de retirer quelque chose?
Non, pas vraiment. Je dirais que le fil rouge, c'est surtout la scénographie. Alors, c'est sur un tapis de paille, de sciure, comme ça.
La mise en scène est de Sylvie de Braquelaire, je vois.
Voilà, en effet. Et en fait, ce lit de sciure cache tous les accessoires soir. Donc ça aussi, ça crée un effet surréaliste avec une table qui surgit ou un pont sur lequel vont se rencontrer deux amoureux. Alors le style mélange aussi beaucoup les genres. Il y a du théâtre d'ombre, il y a des marionnettes, parfois juste un jeu épuré. Voilà, ça navigue comme ça entre plusieurs genres.
On imagine une belle complicité sur scène entre ces deux acteurs.
Oui, il y a quelque chose entre ces deux-là. Il y a une alchimie qui marche toujours et qui ici fait vraiment des merveilles. Ce qui est drôle, c'est qu'ils finissent avec un sketch sur un couple qui a chacun un amant et qui va se lancer comme ça dans un match, dans une lutte pour savoir lequel est le plus cocu. Et voilà, donc c'est vraiment une pièce à voir au Théâtre Le Public. Je vais te laisser donner les dates.
Oui, c'est à voir donc jusqu'au 12 mars 2011, bien entendu. L'éthique du lombric et autres histoires morales. Tiens, oui, il y a des morales sur la vie ou très légère.
On peut y chercher la morale qu'on veut, mais c'est plutôt fun que moralisateur.
Jusqu'au 12 mars, donc, au Théâtre Le Public, www.lepublic.be, avec Bernard Cognot et Marie-Paul Kumps, dans une mise en scène de Sylvie de Braqueler et un texte de Stefano Benny. C'est dans la salle des voûtes, hein.
C'est bien ça.
Voilà. On va prendre maintenant la direction du Théâtre des Martyrs, le Théâtre des Martyrs qui accueille encore une fois le Théâtre en Liberté pour une troisième création autour de Tchekhov. C'est la Cerisée, cette fois-ci, qu'il nous propose après un anniversaire pour cette compagnie qui fête, je crois, les 20 ans de sa création. Et Elisabeth est allée voir ça pour nous. Elle nous en a rapporté quelques impressions que nous avons enregistrées il y a quelques heures. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Alors, tu es allée voir pour nous la Cerisée au Théâtre des Martyrs.
Voilà, alors la Cerisée, c'est bien sûr le fameux texte d'Anton Tchekhov, une pièce qui a été créée en 1904. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a pas pris une ride. En fait, c'est une histoire qui est très touchante, c'est un texte qui est monté assez régulièrement, même si c'est quand même une distribution abondante, ce qui fait que c'est quand même pas tous les jours non plus qu'on le retrouve sur nos scènes. Il faut toujours souligner ça, que c'est du théâtre avec beaucoup de comédiens aussi, sur un grand plateau. Et qu'est-ce que c'est cette pièce ? Ben, c'est l'histoire d'un basculement. En fait, c'est une société qui bascule et tout ça est incarné dans ce presque personnage qui est cette cerisée, qui est ce domaine qui doit être vendu parce que finalement les cerisiers ne peuvent plus produire de fruits. Et puis le monde change et c'est plus les propriétaires terriens qui sont aux commandes, mais bien on rentre dans l'ère des marchands. Donc on est vraiment dans tout ce basculement-là. Cette société qui passe aussi, un des personnages très importants, qui est vraiment un des fils conducteurs tout au long de cette pièce, ben c'est en fait un ancien serf, quelqu'un qui n'a pas pu profiter de cette liberté et qui finalement se dit ben c'est la grande calamité, c'est d'avoir eu cette liberté dont il n'a su que faire. Et très symboliquement, c'est lui qui va terminer la pièce. C'est vraiment le monde qui rentre dans le XXe siècle.
Encore une fois, chez Tchekhov, c'est évidemment la fin d'une certaine aristocratie qui penche, qui va vers la fin, évidemment.
Oui, c'est la fin et la montée d'autres choses, parce qu'il y a un personnage qui est un étudiant qui lui devient un petit peu, entre guillemets, raisonneur, mais on sent bien à travers ce qu'il nous dit que il va vers des idées qui ont traversé le siècle qui est arrivé, évidemment, ce XXe siècle. Et puis, à côté de ça, il y a les marchands qui arrivent. Il est aussi question des estivants, puisqu'il est question de vendre cette cerisée, de la découper en parcelles pour accueillir des gens qui viennent en villégiature. Donc, c'est tout à fait des classes sociales comme ça différentes qui se mettent en place. Et pour chacun des personnages, puisque c'est l'histoire d'une famille, en fait, et la pièce s'ouvre sur le retour de Lyubov, qui est en fait la mère, la sœur, vraiment un personnage central. Elle revient au domaine familial après 5 ans d'exil parisien pour simplement un petit peu liquider les choses parce qu'elle n'a pas su s'opposer aux choses, elle n'a pas su s'adapter et donc c'est un peu tout fout le camp comme ça. Mais Tchekhov amène tout ça de manière très très subtile. Chaque personnage représente quelque chose. Donc il y a un marchand qui incarne finalement le pouvoir de l'argent, mais c'est aussi un homme qu'on voit, il a une histoire, c'est le fils d'un moujik, d'un paysan, il est aussi attaché au domaine parce qu'il y a passé beaucoup de temps. Pour tout le monde, c'est un petit peu un lieu d'enfance aussi, ce domaine. Et donc, ça nous donne une pièce qui est quand même assez longue, c'est 2h15, mais qu'on suit parce que, voilà, il y a à la fois une légèreté, une gravité, il y a des personnages qui sont là, et on peut se projeter, même si, on a vécu ce 20e siècle, finalement, on est arrivé après, on peut comprendre, on peut aussi, je pense, peut-être le ramener un petit peu à soi, parce qu'on a tous des choses à lâcher, pour aller comme à la fin, pour un certain nombre de personnages, ce basculement, le fait que cette cerisée est vendue, c'est un soulagement. On voit aussi les femmes qui vont se mettre à travailler, donc c'est des choses nouvelles dans la société. Et puis, pour d'autres, ça reste un peu plus délicat, évidemment, comme le frère et la sœur.
Alors, des thèmes et un auteur cher au Théâtre en Liberté qui crée donc cette cerisée au Théâtre des Martyrs, avec sous la mise en scène de Daniel Skaes, qui reprend une adaptation de Jacques de Decker. Alors, comment ça se passe ?
L'adaptation de Jacques de Decker fait que le texte est parfaitement lisible et audible pour nos oreilles. En fait, on rentre dedans, on n'a pas d'effet de « tiens, c'est un vieux texte ». Non, c'est une langue qui nous est tout à fait familière, très simple et très claire. Et quant à la mise en scène de Daniel Skaes, il faut souligner quand même qu'elle a misé sur la simplicité. Il n'y a pas de recherche de grands effets, ni dans la mise en scène, ni dans la scénographie, les choses sont simples. Et ça tourne au niveau de la scénographie, par exemple, autour d'un élément central qui est une toute vieille armoire, qui symbolise un petit peu tout le passé de cette cerisée, de ce domaine où il y a eu de l'enfance et tout ça. Et donc, cette armoire reste en scène tout le temps. Et à la fin, très symboliquement, le vieux cerf, il va s'y coucher pour y mourir. Mais donc, c'est vraiment un élément comme ça, scénographique, très isolé, mais qui dit beaucoup de choses. C'est aussi, bien sûr, un spectacle dans lequel on retrouve tous les comédiens de la troupe Théâtre en Liberté. On les retrouve dans un exercice qui leur va bien. Moi, je trouve qu'ils sortent, en tout cas, grandis de cet exercice de simplicité. Et on a une distribution et un spectacle qui est tout à fait dominé par le personnage central de la mère, qui est Lioboff, qui est incarné par Hélène Tenissen. On savait déjà que c'était quand même une grande comédienne, mais je l'ai redécouverte là et j'ai vraiment eu plaisir à la suivre tout le temps. Parce qu'il y a à la fois une force, une fragilité, c'est un personnage, elle est entre le désespoir, entre la frivolité, mais tout ça est vraiment très, très bien amené, ce qui fait que moi j'ai pas piqué du nez du tout pendant les 2h15 du spectacle.
Donc 2h15 qui le mérite apparemment.
Je pense, oui, c'est vrai que la salle était unanime quand j'y ai été, et je crois que oui, moi je pense que j'ai retrouvé avec plaisir cette troupe de Théâtre en Liberté qui est quand même là sur nos scènes depuis longtemps, et c'est vrai que je pense en lisant un petit peu ce qu'ils ont voulu exprimer autour du texte aussi, c'était pour eux finalement un spectacle qui signe un petit peu leur maturité, ça fait 20 ans de compagnonnage pour certains. Et donc voilà, ce qui fait aussi, je pense, que l'accent qui a été donné est plus un accent sur l'individu que finalement ce basculement de la société qu'on pourrait aussi trouver dans cette pièce-là. Et donc ça nous fait beaucoup de personnages attachants, beaucoup de destinées comme ça individuelles auxquelles on a envie de s'arrêter. Voilà.
Troisième succès de Tchekhov donc pour le Théâtre en Liberté au Théâtre des Martyrs. Ils avaient d'abord fait Les Trois Sœurs et Oncle Vania. Ils arrivent donc avec cette cerisée à voir jusqu'au 5 mars au Théâtre des Martyrs, www.théâtredesmartyrs.be. Merci Elisabeth.
La conspiration.
Lendemain, c'était Les Têtes Raides avec un extrait de leur nouvel album Lendemain qui s'intitule également comme ça. On est de retour dans la conspiration des planches pour continuer notre petit tour des créations théâtrales et scéniques de cette semaine et on retrouve Catherine qui est toujours avec nous pour prendre le chemin Limmelweg de Juan Mayorga qui s'est installé à l'atelier 210.
Himmelweg, c'est le deuxième texte qu'on connaît de lui maintenant en Belgique, puisqu'il avait signé aussi Hamelin, qui avait fait forte impression la saison dernière, qui avait été au Don à Avignon, qui avait eu un succès fou, qui avait remporté des prix au prix de la critique.
Et qui continue à tourner maintenant.
Et qui continue de tourner. Mais en fait, Juan Mayorga est maintenant très connu dans le monde entier. Il m'expliquait d'ailleurs hier, après la pièce, que Himmelweg est En ce moment, jouer dans moins 5 ou 6 pays à la fois, de l'Australie aux États-Unis, en passant par l'Allemagne, enfin, c'est un succès incroyable, cette pièce. Et on comprend pourquoi, c'est vraiment une construction très savante. Donc en fait, Juan Mayorga est parti de cette figure historique du délégué de la Croix-Rouge qui était chargé d'aller inspecter les camps de prisonniers juifs pour en faire un rapport. Et c'était surtout à Térésine, mais ça s'est passé à Auschwitz aussi. Les Allemands ont monté de toutes pièces un camp modèle où on avait formé les Juifs pour montrer un camp, où ils faisaient bon vivre. Et ce délégué de la Croix-Rouge est revenu en écrivant un rapport très positif. C'est d'ailleurs un personnage qui apparaît dans les films de Lanzmann, dans Shoah. Donc c'est un personnage très interpellant qui a interpellé Juan Mayorga, qui est parti de là pour faire Himmelweg, qui en allemand signifie chemin du ciel. Et chemin du ciel, c'était le terme utilisé pour la rampe qui menait au four crématoire. Voilà, donc on imagine le thème de cette pièce.
Ça pose déjà quand même une certaine ambiance.
Voilà, en effet. Et donc, cette pièce est jouée par trois comédiens qui vont interpréter trois personnages très distincts. Donc d'abord, ce délégué de la Croix-Rouge, ça commence avec lui. Il est seul sur scène, il y a un écran blanc comme ça. Et il raconte, de son point de vue, cette visite dans ce camp, et peu à peu le doute qui s'immisce en voyant ce tableau comme ça, un petit peu automatique. Il y a quelque chose qui le gêne, il n'arrive pas à cerner quoi. Et puis le commandant va arriver, le commandant de ce camp, joué par Michelangelo Marchese, qui est incroyable dans cette pièce, vraiment formidable, qui donne des sueurs froides, qui est vraiment glaçant. Et le troisième personnage, ce sera Gottfried, donc le leader de cette, comment on va dire, cette pièce de théâtre, en fait, juive. Donc c'est le juif qui va mener sa tribu pour monter cette comédie, en fait. Et c'est ça qui est le plus terrible, parce que c'est une victime manipulée qui va elle-même devoir manipuler ses compatriotes pour monter cette pièce, en sachant que ils ne le font pas, ils seront sans doute renvoyés par le prochain train. Et en même temps, c'est un engagement terrible. Donc voilà, on oscille entre ces trois personnages, avec trois points de vue très différents. Ça suscite des tonnes de questions, évidemment.
Et on retrouve évidemment la force du texte de Mayorga qu'on avait pu déjà découvrir dans Hamelin.
Oui, on retrouve des similitudes, donc dans la construction, notamment une construction un peu lancinante comme ça, avec des répétitions, des obsessions, et surtout une construction qui se dévoile peu à peu. Parce qu'en fait, sans trop vous révéler de la mise en scène qui est signée de Yasmina Douyeb, il y a des films avec des enfants surtout, mais qui ne prennent leur sens qu'au fur et à mesure que la pièce évolue. Donc c'est vraiment une pièce un peu à tiroir comme ça, une pièce à énigme où au début on comprend pas très bien ce qui se passe, et puis au fur et à mesure, on comprend et on revient sur ce qu'on a vu, et tout refait sens dans sa tête. C'est vraiment un puzzle comme ça. C'est très très bien écrit, très très bien joué. Peut-être un peu moins, je trouve, par Jean-Marc Delos, qui a la tâche difficile d'entamer cette pièce, de poser les choses, d'installer ce mystère comme ça.
Ils sont trois sur scène. Hein.
Ils sont trois sur scène.
Donc Jean-Marc Delos, Michelangelo Marchese et Luc Van Gruderbeek.
Voilà. Alors évidemment, ça pose la question de la vie. Est-ce que la vie, c'est pas une pièce de théâtre pour tout le monde, pour nous aussi? Est-ce qu'on n'est pas tous en train de jouer un rôle tout le temps? Mais dans un contexte évidemment terrible, celui de l'Holocauste. La mise en scène de Yasmina Douyeb est très subtile. Alors, comme je le disais, il y a un écran blanc comme ça sur lequel vont être projetées les vidéos, mais qui ensuite va être enlevé, mais l'ossature va rester, ce qui fait qu'il y a un cadre comme ça par lequel on voit les comédiens, ce qui souligne encore l'effet de théâtre. Donc c'est du théâtre dans le théâtre. Et sans doute le moment le plus fort, c'est la confrontation entre le commandant et Gottfried, qui passe des heures à monter cette pièce de théâtre, à dire bah voilà, cet enfant-là, ce sera l'enfant qui joue à la toupie au bord de la rivière. Et puis finalement, l'enfant joue pas très bien ce rôle. Alors le commandant va menacer Gottfried de trouver un autre enfant. C'est un moment très très fort dans une pièce tout du long qui prend à la gorge.
C'est donc à voir jusqu'au 26 février à l'atelier 210. Je crois qu'on l'a pas encore signalé. C'est le Rideau de Bruxelles en fait qui s'installe.
Qui participe. Mais c'est l'atelier 210 qui produit majoritairement Himmelweg.
Ok, ben voilà, comme ça tout est clair. Et oui, nous sommes le 9 février si vous nous écoutez en direct, enfin pas en direct, mais lors de la première diffusion de La Conspiration des Planches. Et sachez que Juan Mayorga sera ce soir encore après la représentation pour pouvoir discuter et échanger avec le public sur son œuvre et notamment Himmelweg. C'est à découvrir donc tous les renseignements sur www.atelier210.be. Avant de faire un petit tour par le petit poussé que tu as été voir aussi pour nous, Catherine, je te propose de parler d'une reprise, L'Homme du Câble, qui va s'installer prochainement au Richclair, au Théâtre des Richclair. Et c'est Elisabeth qui avait été le voir l'année dernière qui nous a refait un petit topo sur cette création. On écoute ça tout de suite et on revient juste après.
C'est un spectacle qui est, je pense, un des meilleurs spectacles que j'ai vu l'année passée. Alors, de quoi s'agit-il? Ben, c'est simplement Thibaut Neuf, qui est un jeune comédien trentenaire, qui s'est lancé dans une trilogie pour laquelle il puise un petit peu dans sa propre vie. Mais l'originalité, c'est qu'il le fait assez directement. En fait, parfois, on se cache derrière des personnages, etc. Bon, là, derrière, il ne prend pas trop de précautions. C'est de lui qui parle et de ses relations familiales. Et dans ce cas précis, c'est la relation à la mère. Et il y a énormément d'originalité dans le traitement, parce que on met les choses à un niveau qui n'est pas très attendu, parce que ces relations mère-fille sont abordées sur un angle presque sexué, comme ça. D'ailleurs, l'homme du câble, c'est un petit peu le réparateur télé, mais il y a des connotations sexuelles qui arrivent là-dedans. Et voilà, donc c'était, je pense, une très bonne surprise de l'année passée. C'est une reprise. C'est aussi l'occasion de découvrir Laurence Warin, qui est une comédienne qu'on connaît bien, qui est très généreuse, mais qui est là dans un rôle de composition et qui est assez étonnante, parce qu'elle est dans une corporalité comme ça, très affirmée. Voilà, elle incarne cette mère, et c'est vraiment intéressant de la voir aussi. Une des particularités aussi, c'est qu'il y a cette mère a deux ados. Alors elle est en interaction avec l'un d'eux, qui est d'ailleurs joué par Thibaut Neuf, qui joue non seulement son propre texte, mais aussi sa propre existence. Et puis il y a aussi un rôle muet, mais qui est très présent aussi. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, de percutant et de réussi. Et voilà, je pense que ça justifie tout à fait la reprise qui est proposée pour quelques dates seulement.
En effet, pour quelques dates, ce sera à partir du 15 février prochain et jusqu'au 26, et ce sera au Centre culturel des Richclair. On termine cette émission avec un conte, Le Petit Poussé, revisité au Varia.
Oui, c'est José Plia, qui est un auteur d'origine béninoise, qui est aujourd'hui directeur d'un théâtre en Guadeloupe, mais qui travaille aussi beaucoup en Europe, qui avait signé aussi le complexe de Thénardier qu'on avait pu voir en Belgique. Voilà, c'est lui qui a écrit et qui met en scène ce conte. Alors, au départ de Mon Petit Poussé, il y a des interrogations d'un père et d'un fils. Donc, José Plia est le fils d'une figure intellectuelle et politique assez célèbre au Bénin. Et donc, José Plia a eu beaucoup de mal à se détacher de cette ombre écrasante du père. Il y a cette interrogation-là. Et puis, il y a aussi l'interrogation du père, puisqu'il il a deux enfants. Mais il est divorcé et ses enfants vivent avec leur mère en Martinique. Il les voit donc très peu et la relation est assez difficile avec son fils qui du coup prend la place du père avec sa mère. Enfin voilà, il y a tout un contexte familial difficile apparemment derrière cette pièce.
Ben, ce que révélait le conte même à la base, hein, oui.
Oui, donc l'histoire du conte du petit poussé, c'est l'histoire d'une fratrie, donc sept frères, dont le petit poussé, le plus petit, le plus chétif et donc le moins aimé. Le père est bûcheron et veut faire de ses fils des hommes forts.
Donc si je comprends bien, ils en ont ressorti des questions, ils ont extrapolé certaines questions sur le contexte familial et peut-être social
oui,
aussi.
Oui, mais on comprend, hein, puisque en fait c'est l'histoire d'enfants qui vont être abandonnés par leurs parents parce que c'est la misère, la famine, les parents n'ont plus de quoi nourrir leurs enfants. Ils vont les abandonner une première fois dans le bois, mais le petit poussé qui a semé les petits cailloux va retrouver son chemin et puis ils vont être abandonnés une deuxième fois. Là, il aura laissé derrière lui des petits bouts de pain qui vont être mangés par les oiseaux. Ils vont atterrir chez un ogre qui va vouloir les manger, mais le petit poussé étant vraiment rusé, va réussir à, pendant la nuit, échanger leur bonnet contre les couronnes des petites filles. L'ogre va manger ses propres petites filles, il va y avoir une histoire de bottes de sept lieues, etc. Donc il y a les failles du père derrière tout ça, c'est vrai, mais peut-être que c'est l'intelligence du metteur en scène, il n'a pas psychologisé le conte. Il déroule le conte tout simplement en faisant confiance à la simplicité des mots et au talent de comédien, donc Dieudonné Kabongo et Sophia Lebout, qui jouent ce conte avec beaucoup de finesse, beaucoup de simplicité. C'est à la fois jeune public si on le voit en matinée, tout public si on le voit en soirée. Ça se laisse regarder, ça dure pas très longtemps, ça dure 1h10. Et c'est voilà, c'est on peut y trouver les réponses à ses propres interrogations, mais il faut pas chercher trop loin non plus.
C'est à voir jusqu'au 26 février au Théâtre Varia, c'est dans la petite salle du Varia, donc Mon petit poussé d'après le conte de Charles Perrault, texte et mise en scène de José Plia. On termine cette émission en rappelant que nous étions partis d'abord du côté d'un lombric avec l'éthique du lombric au Théâtre Le Public avec Bernard Cognot et Marie-Paul Kumps. Nous avons parlé de Tchekhov et la cerisée au martyr. Nous avons parlé également d'Himmelweg, roi de Majorque qui est de retour avec un nouveau texte à l'atelier 210. Nous avons parlé de cette reprise, L'homme du Cap de Thibaut Neve au Riche Clair. Et enfin, nous avons terminé avec ce petit poussé de Charles Perrault et de José Plia. Merci Catherine d'avoir été avec nous.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. On remercie également Elisabeth pour sa collaboration. La semaine prochaine, la conspiration sera en direct mercredi à 19h. Belle soirée ou belle journée à vous. Conspiración.